Aujourd'hui, c'est dimanche. Soyez les bienvenus, 21 avril, le journal. Bonjour, Bernadette Chamonnaz.
Bonjour, avec d'abord cette information qu'on a apprise il y a quelques minutes. Des attentats contre les chrétiens au Sri Lanka. 6 explosions dans plusieurs églises. Le bilan est lourd. Il y a au moins 20 morts et 280 blessés. Il sonnera pour Notre-Dame. Ce dimanche de Pâques, nous irons à Chambéry, où se trouve le plus important carillon de France et même d'Europe. Les gilets jaunes, c'est comme le dentifrice, on ne nous fera plus rentrer. Nous entendrons les manifestants de Toulouse, où ce 23e samedi de mobilisation a été marqué par des heurts avec la police. Dans ce journal encore, Roman Polanski attaque les Oscars en justice. L'Académie l'a exclu sans préavis. Le plogging ou comment courir pour la planète, nous irons à Barcelone. Et un Rafael Nadal en bien petite forme à 5 semaines de Roland-Garros.
Un mot sur les invités de la matinale à 7h50. Patricia, vous recevrez
Stéphane Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale, pour un livre sur la révolution des plantes.
Et puis à partir de 8h20, Frédéric Lenoir, invité. Il a animé des ateliers philosophiques dans les classes de primaire et ça donne ce documentaire, Le Cercle des Petits Philosophes, sorti cette semaine dans les salles.
France Inter.
D'abord, Bernadette, donc cet attentat qui vise les chrétiens du Sri Lanka.
Oui, 6 explosions qui se sont produites ce matin dans 2 églises où était célébrée la messe de Pâques dans la capitale donc du Sri Lanka, Colombo, et aussi dans la ville de Negombo qui se trouve à côté de Colombo. Dans 3 hôtels aussi, il y a eu des explosions. Je vous parlais dans les titres il y a quelques instants d'au moins 20 morts. Eh bien, le bilan s'est encore alourdi, puisque les dernières dépêches parlent maintenant de 42 morts et 280 blessés. Nous reviendrons bien sûr sur ce qui semble être plusieurs attentats qui touchent donc la communauté chrétienne en ce dimanche pascal. Et pour tous les chrétiens qui célèbrent Pâques, jour pour eux de la résurrection du Christ, un carillon sonnera de toute la vigueur de ses 70 cloches en France. Il s'agit du plus grand carillon de France et même d'Europe. Inauguré au château des Ducs de Savoie à Chambéry, c'était en 1993, il y a plus de 25 ans et pourtant il est encore très méconnu des Français. Xavier Grumeau, vous avez pu visiter ce lieu unique.
Situé dans la plus haute tour du château des Ducs de Savoie, il faut s'accrocher pour monter jusqu'au sommet.
Alors on prend notre temps pour deux raisons, d'abord parce que je suis vieux. Et puis deuxième raison, c'est qu'on a quand même 85 marches à faire.
Depuis 45 ans, Jean-Pierre Vitot est le carillonneur de la ville de Chambéry. Autant dire qu'il connaît l'histoire de cet instrument sur le bout des doigts.
Chambéry était équipé d'un premier carillon en 1938 exactement, le 11 septembre 1938. Il y avait à l'époque 37 cloches, c'était un des tout premiers carillons, si ce n'est le premier, sur lesquels on avait accordé les cloches, au sens musical du terme.
Et harmoniser 70 cloches n'est pas chose facile.
Toutes les fois qu'on descend d'un octave, le poids des cloches est multiplié par 8. C'est-à-dire, dès que vous voulez descendre dans le grave, ça vous redit très très vite.
Au-delà de la distraction sonore, le carillon permet aussi de donner une âme et une atmosphère à la ville.
Il y a ces gens qui disent, mais ça change complètement l'atmosphère, on oublie complètement nos soucis, on écoute ça, ça nous fait un moment de repos tranquille, etc.
Après presque un demi-siècle de bons et loyaux services, Jean-Pierre Vitot est à la recherche d'un ou d'une successeur pour continuer de faire résonner les cœurs de Chambéry.
Quant à Notre-Dame de Paris, elle est quasiment sauvée, assure le ministre de la Culture. Les pignons nord et occidental, le beffroi sud, sont sécurisés. Reste un point sensible, la voûte. On va maintenant débarrasser les gravats avant de la bâcher. Hier soir, le concert pour la reconstruction de la cathédrale, en direct sur France 2 et en partenariat avec Radio France, a permis de récolter encore 230 000 euros.
Les gilets jaunes, avec une mobilisation en légère hausse hier. On peut aussi parler d'une violence relativement contenu.
28 000 gilets jaunes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Le mouvement en revendique 100 000. 60 000 forces de l'ordre étaient mobilisées pour contrôler en effet des violences qui ont tout de même eu lieu, notamment à Toulouse. Stéphane Garcia.
Comme toujours à Toulouse, c'est en milieu d'après-midi que des incidents ont commencé à se produire. Jets de projectiles, feu sur les grands boulevards, en riposte. Les 500 policiers et gendarmes lancent des grenades de désencerclement lacrymogène, de quoi dégoûter certains manifestants.
Ça nous saoule parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on sort, qu'on marche, qu'on se fait gazer, qu'on se fait arrêter, qu'on se fait insulter.
C'est pas normal en pleine ville d'avoir ça. On se croirait dans un pays en guerre. On n'est pas dangereux, on n'est pas méchant.
Des scènes loin du cortège de plusieurs milliers de manifestants qui a fait plusieurs boucles autour du centre-ville dans le calme tout au long de l'après-midi.
Joyeux, convivial, solidaire. Moi, je trouve qu'il y a une communion qui est saine.
J'essaie de jongler pour faire un peu de joie et de bonne humeur, pour pas être juste un manifestant qui marche dans les rues. Des gens qui prennent des pancartes, on essaie de faire autre chose.
Alors que le président doit annoncer des mesures après le grand débat, ces gilets jaunes n'y croient pas vraiment.
Il parle tout seul, il s'écoute lui-même, c'est tout ce qu'il fait.
C'est même de pire en pire, puisque même l'EDF il va augmenter, il y a le gasoil on avait réussi à faire baisser, il augmente à nouveau. C'est de plus en plus dur pour tout le monde, je pense.
D'autant que ces fins de manifestations agitées ne sont pas de nature à calmer les ardeurs des manifestants.
Les gilets jaunes, c'est comme le dentifrice, ça ne veut plus rentrer dans le tube quand on l'a fait sortir. C'est parce qu'il y a des gens qui ont le courage de se lever, qu'il y a des choses que peut-être qui auront une petite chance infime d'avancer.
Toulouse, Stéphane Garcia, France Inter.
Des violences aussi à Paris où certains ont lancé aux policiers « Suicidez-vous ». Ignoble, une réaction écœurée de l'ensemble de la classe politique. Depuis le début de l'année, 28 policiers ont mis fin à leur jour.
Roman Polanski attaque les Oscars en justice.
L'Académie de Los Angeles l'a exclu l'an dernier. Le cinéaste en était membre depuis 50 ans, mais l'après MeToo ne pouvait tolérer dans ses rangs l'homme qui a fui les États-Unis après avoir plaidé coupable pour l'agression sexuelle d'une mineure, même si l'affaire est terminée d'un point de vue judiciaire. Loïc Piala.
L'avocat de Roman Polanski assure que son client a appris son exclusion dans les médias en mai 2018. L'Académie des Oscars, dont il était membre depuis un demi-siècle, ne lui aurait donné aucun préavis, le privant d'une opportunité de se défendre. Une décision qui irait à l'encontre des règles même de l'institution, mais aussi de la loi californienne. Le réalisateur, récompensé en 2003 pour Le Pianiste, a déjà fait appel de son renvoi auprès de l'Académie, appel rejeté en janvier. À la suite du mouvement MeToo, l'institution qui décerne chaque année les célèbres statuettes a revu son code de conduite. Le nouveau texte lui donne le droit d'exclure quiconque compromet son intégrité. Polanski, le producteur Harvey Weinstein et le comédien Bill Cosby ont été renvoyés depuis. Dans un communiqué, l'Académie considère que les procédures suivies étaient équitables et raisonnables. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
En sport, un visage des mauvais jours, celui de Rafael Nadal qui à Monte Carlo s'incline devant Fabio Fognini. Fabrice Abgral.
Rafael Nadal a tellement l'habitude de gagner sur terre battue que tout le monde avait presque oublié qu'il pouvait perdre. Et hier, après sa défaite face à Fognini, l'Espagnol ne se cherchait pas d'excuses, il a vécu un jour sans.
C'est juste un de ces jours où rien ne va. J'ai probablement joué le pire match sur terre battue en 14 ans de carrière. Quand ça vous tombe dessus, c'est normal de perdre. Je méritais de perdre car j'ai joué contre un adversaire qui était plus fort que moi aujourd'hui.
Mais cette contre-performance était plus ou moins prévisible. C'est ce que dit Benito Barbadillo, l'agent de Rafael Nadal.
Il est arrivé pas très bien au tournoi. Il n'a pas entraîné très bien les premiers jours. C'est pas facile de gagner un tournoi comme Monaco. Si tu n'es pas prêt, il n'était pas prêt, je pense. Il faut travailler et continuer parce que bien sûr, maintenant, l'objectif, c'est toujours Roland-Garros.
Roland-Garros débutera dans un peu plus d'un mois. Juste le temps nécessaire pour que Rafael Nadal retrouve le niveau qui lui permettra de remporter un 12e titre porte d'Auteuil. C'est du moins l'avis de l'ex-joueur Nicolas Escudé.
C'est que le premier tournoi de la saison sur Terre, ça reste ici du format 3-7. Roland, c'est du format 5-7. Mais l'objectif, c'est pas forcément Monte-Carlo, c'est Roland. Donc, il reste du temps.
Monte-Carlo, Fabrice Abgral, France Inter.
Monte-Carlo avec donc une finale Fognini-Lajovic cet après-midi en Fed Cup. Pour l'instant, France et Roumanie sont à égalité un partout. Faire du sport, c'est bien. Faire du sport utile, c'est encore mieux. À Barcelone, des coureurs inventent le plogging, un mix de jogging et plog, qui veut dire ramasser, c'est du suédois, ramasser les déchets sur les plages, nombreux à Barcelone. C'est un reportage de Mélanie Nunes.
Le soleil se lève tout juste sur la plage de Barcelone, presque vide. Au premier plan, ses palmiers, au loin, la mer, mais sur le sable, des tas de déchets laissés par les baigneurs ou les fêtards de la veille. Priscilla, à l'initiative du plogging, explique aux nouveaux venus, basket aux pieds, la démarche.
Oui, ce sont des sacs en plastique biodégradables. Là, ce sont des gants. On va surtout récupérer du plastique, principalement les restes de la soirée, des verres, des cuillères. Il faut que ça reste un bon moment. Vous pouvez vider les sacs au fur et à mesure pour que ça ne soit pas trop lourd à transporter.
Une fois les sacs plastiques distribués, ils s'échauffent en musique. Moche et Gaëtan, un couple de Belges qui vit à Barcelone, sont parmi les plus assidus.
on va commencer.
Et là, on voit déjà des déchets, en effet.
À mon avis, c'est quelqu'un qui avait un sac poubelle et qu'il a dû le laisser la traîner. Il y a un paquet de cigarettes, un Tupperware, un ticket.
C'est une catastrophe, on se retrouve avec des bouteilles, des plastiques. C'est très, très sale.
Le plogging, c'est une autre façon de faire du sport. On s'abaisse pour ramasser les choses, qu'on va arrêter de courir pendant un moment. On met notre pierre à l'édifice et je pense que les consciences vont changer petit à petit.
Quelques heures plus tard, ils ont collecté des kilos de déchets, un geste qui connaît de nouveaux adeptes. Chaque semaine, ils sont des dizaines à rejoindre ce groupe. Barcelone, Mélanie Nunes, France Inter.
Et pour terminer, donc je reviens sur cet attentat au Sri Lanka, 6 explosions dans des églises où était célébrée la messe de Pâques. Il y a au moins 42 morts.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.